Donc, il faut savoir aussi que la Renaissance est marquée par l'apparition du coup des manufactures royales. Donc, il faut savoir qu'il y a trois manufactures royales en France, notamment les Gobelins. Donc, pour l'ameublement, l'ultra-luxe en général, aux Gobelins, on faisait un peu de tout. Donc voilà, on avait la porcelaine à Limoges. Donc, la porcelaine qui, du coup, va être envoyée, par exemple, à Sèvres, pour faire le fameux bleu de Sèvres. Il faut savoir que c'est pas des manufactures royales. On me le dit souvent, le bleu de Sèvres, mais non, c'est un atelier. Voilà, ce n'est pas une manufacture. Et évidemment, la tapisserie à Aubusson. Savoir qu'on est un cas à part à Aubusson, parce qu'ici, on n'a pas de gros bâtiments pompeux, avec des portes en bronze, voilà, beaucoup d'ouvriers... Voilà, un côté très seigneurial. Non, nous, on n'aime pas trop ça par chez nous. Déjà, on habite en pente, on n'a pas la place d'installer ce genre de grand bâtiment. Non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'ici, on a créé une charte. Donc, une charte qui est composée d'une quinzaine de règles qui va permettre, en fait, aux roturiers de devenir bourgeois par la seule action de leur talent. Et ça, c'est très, très rare et unique en France à l'époque. Donc, le principe est très simple. Vous êtes ici à Aubusson. Vous devenez manufacture royale dès que vous répondez aux règles de la charte. Et peu importe la taille de votre manufacture, votre rang social, votre statut. Et ça, voilà, ça c'est vraiment une exception. Aubusson, c'est pour ça qu'on retrouve énormément en fait, de manufactures royales chez nous. Il y en a partout. Vous baladez dans la ville, vous verrez très souvent des entêtes de maisons avec des noms et des lettres marquées M et R comme manufacture royale. Donc avec du coup le nom des lissiers, la date d'installation. Donc voilà, je vous invite du coup à vous balader en Aubusson pour voir ce genre de choses, c'est très très intéressant. Donc les manufactures royales donc créées par Louis XV, qui ont été débutées par Louis XIV, ces manufactures royales vont du coup nous apporter un peintre, qui est Lebrun, qui va former des élèves à Aubusson, pour pouvoir du coup produire des cartons un peu plus, d'un peu meilleure qualité, et surtout avec des peintres locaux. Donc là, on est devant une grisaille qui est la seule pièce d'époque du coup de notre musée. Donc une pièce datée du 18e. Donc on est devant une scène familiale du coup champêtre où il y a des enfants avec leur mère, quelques animaux, notamment un chat. Donc c'est quelque chose de très très bien réalisé, d'extrêmement fin. Donc là, avec des annotations de couleurs comme linge, on a jonquille aussi pour la couleur de la robe d'une des enfants. On a rouge, gros rouge, voilà, on a des appellations qui n'existent plus trop maintenant. À l'époque, on n'avait pas encore toutes les tonalités de couleurs. Voilà, par exemple, j'imagine que le rouge corail n'existait pas encore. Bon. Peut-être bien, quoique. Bon, le rouge écaille de tortue existait bien, donc. Enfin. Donc, ça, c'est une pièce, du coup, qui a été réalisée par un élève de Lebrun, probablement d'une composition de Lebrun, mais ça, c'est pas vérifiable. Mais voilà, donc c'est une pièce de très très grande qualité, très rare, hein, il faut savoir que les pièces d'époque sont très rares, parce que comme je vous le disais, elles étaient généralement détruites. Donc voilà. On va passer maintenant à la troisième salle du musée. Donc on va voir l'époque moderne à partir de la Révolution française. Donc l'époque moderne et baroque. Donc bienvenue dans la troisième salle du musée. Donc voilà, on arrive à la Révolution. C'est pas ouf pour nous. On est une manufacture royale, je vous le rappelle. Donc les commandes s'amenuisent, on va produire moins de choses. On va produire notamment moins de grandes tapisseries très très fines, même quasiment plus. Donc comme la scène de boucher qu'on peut voir dans le musée, là dans cette troisième salle. Donc il y a une scène qui représente des anges sur une nature avec... des anges donc en couleur d'un côté et gris de l'autre, ce qui représente le bien et le mal. Voilà, et donc du coup, on est comme les personnages du centre sont comme des entre-deux, voilà. C'est un peu comme dans la vie, on est entre le bien et le mal. donc voilà, on va produire du coup beaucoup moins de choses comme ça, c'est trop grand. En plus, à l'époque, on commence à habiter des appartements. On va produire surtout les petits modèles de tapisserie bassiste du coup. Voilà, généralement de 60 cm². On va produire aussi des petits articles de mode. Voilà, donc comme des petits sacs à maquillage, avec des belles bronzeries autour, des petits sacs à main, des sacs à bijoux, voilà. Donc avec des tapisseries très très fines. Mais le fer de lance du 19e à Aubusson, c'est le tapis de point noué. Donc le tapis de point noué, ou tapis de savonnerie, ou Aubusson, on appelle ça aussi un Aubusson à l'étranger. est un tapis qui a été du coup créé pour la première fois dans des savonneries aux Gobelins, qui ont été désaffectés de cet usage, puis réaffectés pour faire des tapis. Et pour conserver un peu l'histoire de cette savonnerie, et ben on a décidé d'appeler ce tapis le tapis de savonnerie. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc le tapis de savonnerie dans la technique, c'est un peu comme le canevas. Donc on a un grillage derrière qu'on va du coup garnir avec des brins de laine en suivant un carton qui va un peu nous faire penser au pixel art.
Ah oui, c'est plein de petits carrés.
Voilà, c'est plein de petits carrés exactement de couleurs. Voilà, de couleurs qu'il faut remplir avec des brins de laine du coup de la même couleur. Voilà, donc on prend un brin. On l'entoure, on le noue, on le tire, on le coupe. On reprend un brin, on change de couleur s'il y a besoin. On l'entoure, on le noue, on le coupe. C'est extrêmement long. Imaginez, j'entoure, je noue, je coupe. J'entoure, je noue, je coupe. Il faut savoir qu'il y en avait des milliers au mètre carré, des choses comme ça. Donc, ceux qui faisaient ça, évidemment, c'était des orphelins. Parce qu'à l'époque, on employait énormément d'orphelins dans l'industrie. Alors, il faut savoir que c'est pas le pire sort réservé à des orphelins à l'époque. On se rappelle les mines de charbon. Voilà. Ou d'autres mines d'ailleurs, parce que bon, il n'y avait pas que les mines d'argent, bon, les mines d'or, voilà, ou autres. Donc, des orphelins, du coup, qui vont travailler pour faire des tapis de point noué. Donc, sur notre photo, on les voit, ils ne sont pas en train de faire du tapis, ils sont sur un point poncif, qui est une machine à calque, en fait. La méthode du point poncif, tout simplement, on fait des petits trous autour de notre œuvre, et on va passer, en fait, du fusain ou de l'encre, et puis au-dessus d'un autre papier, et puis on va enlever, ça fera comme un détour. Donc, c'est pour faciliter un peu la vie. Donc ce sont des orphelins qui travaillent pour la maison Danton, donc maison Danton qui était à Aubusson. Donc voilà, le tapis de point noué va être, on va en fabriquer du coup jusqu'au 20e, on va avoir une maison qui va se démarquer des autres, qui s'appelle la maison Salandrouze. Maison Salandrouze qui va produire énormément de pièces pour de très grandes salles, voilà, notamment le tapis pour Murat, voilà, on a les tapis pour Napoléon, pour des grandes cours impériales. Ils ont eu du coup aussi une annexe à Londres pour faire du tapis de point bouclé notamment, pour pouvoir vendre les tapis aux Anglais. Et ils vont faire fortune comme ça jusqu'au 20e, donc on va les retrouver dans des salons universels à Milan, à Paris. Donc à ces époques-là, le tapis de point noué est florissant. Je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à aller voir l'exposition sur le tapis de point noué Salandrouze qui se trouve au Centre culturel Jean Lursa. C'est une très très belle exposition et en plus de ça, c'est pas cher. Donc vous verrez des très très belles pièces de tapis de point noué dont certaines n'ont pas été utilisées, ce qui est très très rare. Du coup, elles sont dans un état exceptionnel. Des très très belles tapisseries de Bastis aussi, qui sont aussi très très bien conservées. Voilà, n'hésitez pas à y aller, ça vaut le coup.
Et c'était... Pour mettre au sol ou au mur?
Ah oui, le tapis de point noué, c'est une moquette.
Ouais, c'est une moquette.
Je n'ai pas précisé, mais c'est une moquette, le tapis de point noué. Voilà, aujourd'hui, on en produit encore. La maison Pinton en produit. Voilà, donc aujourd'hui, on ne fait plus les choses à la main, on fait les choses à la machine. On a une machine qui s'appelle une tufteuse. Voilà, c'est un peu comme un pistolet à tuft. Voilà, donc on appelle ça un tuft, voilà, le fameux brin. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Bon, par contre, la machine pèse assez lourd, hein, c'est une dizaine de kilos. Il faut demander aux ouvriers qu'est-ce qu'ils en pensent, mais généralement, voilà, ils disent pas que c'est léger. Donc, on arrive du coup au 20e. Au 20e, il y a la guerre mondiale qui va du coup mettre un peu à mal l'industrie de la tapisserie de tapis de point noué à Aubusson, encore une fois. Voilà, puis ensuite, on va avoir la crise économique. Ça va être encore, pas être dingue. Et puis, il va arriver Jean Lursa, en 1935, du coup. Donc, Jean Lursa, qui est Jean Lursa, déjà? On peut se demander qui est ce personnage qu'on retrouve partout en Creuse. Jean Lursa par-ci, Jean Lursa par-là. Des avenues Jean Lursa, des places Jean Lursa. Eh bien, Jean Lursa, il faut savoir du coup que c'était un peintre d'art mural. Un peintre d'art mural qui vient d'Angers. Donc, il connaît la tapisserie de Bastis parce qu'à Angers est conservée la plus grande tapisserie de Bastis de l'histoire. Donc, l'Apocalypse par Saint-Jean, qui est une tapisserie de 120 mètres de long, qui représente du coup l'Apocalypse, qui est très intéressante de par son histoire parce qu'elle a été découpée donc, par les différents successeurs. Donc il a fallu retrouver tous les bouts pour pouvoir la rassembler. Certains étaient utilisés dans des cabanons de jardin, d'autres comme celle de chevaux, enfin bref. Voilà. Donc c'est très intéressant, voilà. Et il cherche encore quelques bouts d'ailleurs. Voilà. Donc si vous avez un bout de tapis pour un noué de l'Apocalypse chez vous, essayez de le rendre à Angers. Enfin.
Donc, à Jean Lursa.
À Jean Lursa, voilà. Pensez à Jean Lursa. Donc Gérard Saint vient d'Angers, il connaît du coup la tapisserie de Bastis, il habite Paris, et il va du coup descendre sur Aubusson pour faire une tapisserie. Donc il fait un carton, il l'envoie à Aubusson, il attend que la tapisserie soit réalisée, la tapisserie est réalisée, et là il est déçu. Il n'aime pas du tout sa tapisserie. Sa tapisserie, elle est très 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 moche selon lui. Mais au lieu de partir sur un échec sans payer ni quoi, sans sa tapisserie, eh ben lui, il va commencer à s'intéresser parce qu'il trouve qu'il y a une plus-value à faire quand même sur cette chose. Que lui, ça lui tient à cœur de participer à ça. Et du coup, il va s'intéresser, il va interroger des teinturiers, des peintres cartonniers, des lissiers. Il va regarder dans l'histoire de la tapisserie, voir ce qu'on faisait avant. Il va comprendre qu'on faisait des hachures au Moyen-Âge. Les hachures qu'on a vues un peu plus tôt. Voilà, ces hachures qui sont très pratiques pour Jean Lursa. Donc là, je suis sur un carton qui est du coup très bien hachuré, donc avec des hachures très visibles. Donc c'est une scène de rencontre seigneuriale. Donc ces hachures intéressent Jean Lursa parce que c'est une économie de temps, c'est une économie de couleur aussi, c'est une économie du coup d'argent. Voilà, donc ça fait des tapisseries qui sont moins chères. Il va changer le format des tapisseries pour pouvoir intéresser du coup les gens qui habitent des appartements. Il va mettre en application le carton numéroté qui était au stade de prototype avant. Le carton numéroté qui n'est plus un carton coloré du coup. On est sur un carton avec des numéros un peu comme un coloriage pour enfants. Voilà. Donc des numéros qu'on va remplir, qui représentent des zones qu'on va remplir d'une couleur spécifique qui est représentée par le numéro. Donc qui dit carton numéroté dit palette de couleurs. Donc derrière vous allez voir la palette de couleurs. Je vais lire ça. Donc il n'est pas au complet, il va manquer certains rouges, mais on a la plupart des couleurs. Donc voilà, et c'est à partir de ce moment-là, de Jean Lursa, qu'on va commencer à tisser de grands noms à Aubusson. On va tisser Picasso, on va tisser Cocteau, on va tisser Chagall, on va tisser Miro, on va tisser César, on va tisser Kirchner, on va tisser de très grandes personnes. Il va y avoir des peintres qui vont se spécialiser dans ce domaine, notamment Gromaire, de Robert, Legrand, qui va faire des très très belles œuvres. Et on va venir à Legrand du coup. Donc Legrand, avec cette maquette, qui est une scène de potier, donc qui a été faite dans les années 60, donc dans un style très 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 cubique. On sent l'inspiration un peu Picasso. Voilà, donc avec beaucoup de hachures, quelque chose de très coloré, très flamboyant, avec des flammes au-dessus, du coup rougeoyantes, avec du jaune, du rouge un peu plus foncé, des pots en train de cuire à l'intérieur du four, donc four qui est découpé en deux avec une vue tranche pour qu'on voit ce qui s'y passe. Donc on voit pas mal de types de pots, des personnages debout, des pots conventionnels, des pots à anse, voilà. Il y a des ouvriers de part et d'autre de ce four qui sont en train de mettre du bois dans le feu pour l'attiser. Il y a un autre qui n'a pas compris que pour se désaltérer, il faut boire de l'eau. Voilà. Donc pour l'histoire, il tient une bouteille de vin, donc bon, peut-être que dans les 60, ça se faisait. Bon, aujourd'hui, plus. Enfin, je pense pas. Donc d'autres ouvriers sont en train de déplacer les pots, de ranger, voilà. Donc on retrouve les fameuses hachures qu'on a vues précédemment, qui ont été remis au goût du jour, qui sont partout présentes sur notre maquette. Hop, cette maquette, je vais la poser, je vais sortir le carton de tapisserie qui a été réalisé à partir de celle-ci. Donc un carton qui fait 1,85 m par 2,75 m, donc qui est un carton numéroté.
Et le code couleur, c'est toujours le même en fait.
Alors le code couleur, il peut changer selon la manufacture. Hein.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà, donc là on est sur un carton qui est très très fin, très bien réalisé. Du coup avec des numéros absolument partout. Voilà. Plus numéroté que ça, je ne connais pas. On retrouve des numéros dans le fond des yeux des personnages, voilà, qui sont tout tout petits, des petits J23. Voilà, des jaunes. Voilà, des R en pagaille, des noirs en pagaille aussi. Donc des hachures présentes partout, quelque chose d'extrêmement fin. Dommage que vous ne le voyez pas en vrai. Enfin. Donc ça, c'est une pièce du coup de maître, hein, quelque chose d'extrêmement subtil, d'extrêmement bien réalisé. Donc c'est une pièce de collection de notre musée. Moi, actuellement, je cherche la tapisserie qui a été réalisée à partir de ce carton. Je n'ai pas encore retrouvé, mais bon, qui sait, peut-être un jour. Donc on va le replier.
On arrive à savoir qui était le commanditaire, qui l'a acheté.
Alors oui, c'est un potier d'Orléans, mais j'ai pas plus d'informations que ça. Donc c'était un potier d'Orléans, j'ai pas retrouvé les archives, parce que comme les manufactures ont fermé, voilà, ils gardaient pas nécessairement les registres. Certains ont même été vendus. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est du coup la dernière pièce de notre visite. Maintenant c'est fini. Vous pouvez me laisser un mot dans mon livre d'or si vous voulez.
Bah, merci Vincent de cette visite.
Mais de rien.